Bonjour Anne, bonjour Luna. Ravie de vous retrouver pour ce podcast. Je vous laisse vous présenter en nous expliquant ce que vous faites dans votre vie pro et quelle est votre mission à toutes les deux.
Bonjour Émilie, merci de cet accueil. Je suis Anne Cuvillier, chargée d'éducation et développement pour Unity Foundation. Donc, je m'occupe des projets au Luxembourg qui sont destinés à la jeunesse et au grand public pour l'éducation aux thématiques du développement durable.
Bonjour, ravie d'être là aussi. Moi, c'est Luna Congo. Je suis chargée des projets internationaux de Unity Foundation, donc les projets de nos organisations partenaires que nous soutenons dans 6 pays à travers le monde.
Pour situer auprès de nos auditeurs vos actions et missions, est-ce qu'on peut rapidement expliquer ce que c'est une ONG? Ça veut dire quoi déjà, ONG?
Alors, une ONG, c'est l'acronyme pour Organisation non gouvernementale. En fait, c'est une association à but non lucratif qui est d'intérêt public, mais qui ne relève ni de l'État ni d'institutions internationales. À la différence d'une entreprise, une ONG, du coup, ne recherche pas le profit, mais ça n'empêche pas qu'elle puisse exercer des activités commerciales. Donc, c'est la différence, la différence principale entre ONG et entreprise.
C'est un terme qui est utilisé à l'international par tous les pays.
Oui, en fait, les ONG ont même difficilement une définition très claire et harmonieuse partout dans le monde, mais elles ont bien un nom partagé dans tous les pays.
Il y a beaucoup d'ONG actuellement au Luxembourg, en Europe et dans le monde. Combien êtes-vous en statistique? Est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée?
Justement, le fait d'avoir des définitions diverses et variées et de ne pas toujours savoir aussi l'évolution très rapide des ONG, des associations à travers le monde, fait qu'on a du mal à estimer à combien elles se nombrent. Il y a des statistiques qui parlent de 70 000, d'autres de 10 millions. Je pense qu'on est un peu entre les deux, mais plutôt du côté des 10 millions, parce qu'quand on pense au continent africain, à l'Inde, à l'Asie, etc., c'est des pays quand même très actifs socialement et où on sait qu'il y a des ONG qui se créent tous les jours. Donc voilà, ce serait plutôt du côté des millions.
Il y a de la concurrence quand on est une ONG. Est-ce qu'on raisonne en termes de concurrence d'ailleurs quand on est une ONG?
Bah, ce qui unit les ONG, c'est cette vision de comment on peut améliorer la société et ce désir de participer à cette amélioration. Donc en fait, quand on travaille tous ensemble pour l'amélioration du monde, et pas simplement les associations, mais aussi le monde en général, bah, on avance et on fait avancer la société. Donc évidemment, on peut pas omettre qu'il y a de la concurrence pour certaines ONG, vis-à-vis de leurs donateurs, vis-à-vis de terrains d'intervention, vis-à-vis de l'attraction qui est créée du public. Mais à Unity Foundation, on aime plutôt penser en termes de complémentarité, en termes de collaboration, de coopération. On a des approches qui peuvent être variées, des domaines et des modèles d'intervention qui sont différents. Et on pense que c'est important de se réjouir du progrès et du succès des uns des autres. Et que c'est en apprenant et en travaillant ensemble qu'on peut vraiment faire avancer la société et pas dans la concurrence. Voilà.
Comment est née Unity Foundation? D'où est partie l'idée?
Alors au départ, c'était au début des années 80, un groupe d'amis en fait de divers horizons qui étaient conscients finalement des ressources matérielles importantes qui existaient au Luxembourg et avaient la volonté de contribuer à réduire finalement ces extrêmes de richesse et de pauvreté qu'on voit dans le monde. Donc c'est vraiment ce sens de justice qui les a poussés à réfléchir à mettre en place une organisation qui pourrait acheminer des ressources financières vers des projets de développement menés par des organisations partenaires au plus près du terrain finalement à travers le monde. Donc, Unity Foundation a été créée en 1980 en tant qu'association sans but lucratif à la base, puis elle a été reconnue en 1991 en tant qu'établissement d'utilité publique et organisation non gouvernementale, donc reconnue par le ministère des Affaires étrangères et européennes luxembourgeois. Et du coup, depuis cette reconnaissance en tant qu'ONG en 1991, le MAE a cofinancé sans interruption une cinquantaine de projets menés par Unity Foundation dans 17 pays. Et au départ, finalement, le choix des projets dépendait des opportunités qui apparaissaient. Du coup, c'était dans des domaines assez divers. Ça pouvait être l'éducation, la santé, le digital, etc. Mais au fil des années, les projets se sont de plus en plus focalisés sur l'éducation et la formation. Et la vision de Unity Foundation s'est clarifiée comme celle d'autonomiser les populations locales grâce à l'éducation et au renforcement des capacités des individus et des communautés pour qu'ils puissent eux-mêmes analyser leur réalité et agir pour la transformer positivement et étant ainsi les protagonistes et prenant ainsi en charge leur propre développement matériel, social, intellectuel et moral. Donc cette vision de Unity Foundation aujourd'hui, elle est réalisée dans nos deux missions. L'une qui est de soutenir nos partenaires locaux à l'international dans leurs efforts pour renforcer les capacités des populations locales pour apporter ce changement positif durable. Et d'autre part, le deuxième volet sur lequel Anne travaille davantage, qui est celui d'aider les jeunes et les adultes au Luxembourg à développer les capacités qui sont au cœur du changement positif.
Comment est structurée Unity Foundation? Comment est constituée l'équipe au Luxembourg et à l'international?
Alors, ce qui est clair du coup, parce que Luna disait, c'est qu'on est en partenariat avec des ONG qui ont leur entité propre et leur autonomie. Donc, ces pays-là, ils sont six, le Cambodge, la Colombie, le Malawi, la République centrafricaine, l'Ouganda et la Zambie. Et voilà, c'est bien des ONG qui sont différentes de nous au Luxembourg. Sinon, Unity Foundation, elle est constituée d'un conseil d'administration comme toutes les ONG. Donc, il y a cinq personnes qui nous soutiennent cœurs et âmes. Et on a encore la chance d'avoir un des fondateurs de Unity Foundation parmi nous. Monsieur Abbas Rafi, fondateur, il y a plus de 30 ans maintenant. Et au niveau du bureau, on a 6 personnes avec l'équivalent de 4 personnes à temps plein. Donc, il y a 2 personnes qui s'occupent des projets à l'international, 2 personnes qui s'occupent des projets au Luxembourg, 1 personne qui est encore dans le levée de financement et puis 1 personne qui est surtout concentrée sur l'administration. Après, il y a encore des tâches diverses et variées de communication, d'administration, de levée de fonds, etc., qui sont partagées parmi tous les membres de l'équipe. Et c'est pas plus mal parce qu'on se rend compte aussi que d'avoir un pied un peu partout et de suivre, ça nous permet déjà de donner notre vision de ce qu'on fait et du cadre dans lequel on travaille, mais aussi de renforcer notre vision interne de comment on souhaite travailler, comment on souhaite prendre des décisions. Et comment on est vraiment sur un processus d'apprentissage dans l'équipe qui permet aux talents, aux capacités, aux connaissances de chacun de contribuer et d'être mis à profit.
Quelle langue vous utilisez pour communiquer?
Alors, la plupart d'entre nous parlent luxembourgeois, mais il y a quand même une tendance à parler français et anglais par facilité et par habitude. Donc voilà, c'est plutôt le français et l'anglais, et de même pour nos projets à l'étranger.
Et en quoi consistent vos projets à Luxembourg et à l'international?
Je vais commencer par décrire un petit peu les projets à l'international, puis Anne pourra parler un peu plus de ce qui se passe au Luxembourg. Donc, au niveau de l'international, en fait, nos organisations partenaires mènent une ou deux ou trois des différentes lignes d'action qu'elles ont en commun. Donc, ces différentes lignes d'action, la première, c'est les écoles communautaires. Donc, ici, on parle en fait de la formation d'enseignants et le renforcement des capacités des communautés locales pour mettre en place des écoles de niveau préscolaire, primaire et secondaire pour assurer une éducation de qualité aux enfants dans des zones rurales et périurbaines où l'accès à l'éducation est parfois très difficile, où il faut marcher de longues distances. Donc, vraiment, les écoles communautaires visent à apporter une éducation aux enfants au plus près de là où ils vivent. La deuxième ligne d'action que certains de nos partenaires mènent, c'est le programme de préparation pour l'action sociale. Et donc, ce programme vise en fait à renforcer les capacités des populations et des jeunes en fait et des adultes afin qu'ils puissent promouvoir le bien-être de leur communauté. Donc, ceux qui sont diplômés du programme, on les appelle les promoteurs du bien-être communautaire parce qu'ils ont vraiment renforcé leurs capacités pour mettre en place des projets qui peuvent répondre aux besoins de leur village ou de leur quartier dans des domaines comme l'éducation, l'agriculture durable, la préservation de l'environnement, la santé, etc. Et enfin, on a les centres de formation que deux de nos partenaires ont mis en place, qui rassemblent en fait des organisations promouvant la mise en place d'écoles communautaires dans 12 pays d'Afrique, afin d'identifier, d'analyser, de systématiser en fait les apprentissages qui sont générés dans le développement des écoles communautaires. Donc, comme toutes ces organisations qui font partie de ce réseau mettent en place des écoles communautaires, ça leur fournit vraiment cet espace pour apprendre les unes des autres et s'enrichir de leurs expériences les unes des autres. Et vraiment, ce qui est important dans tous les projets qu'on mène, c'est vraiment cette idée que l'éducation, elle est vraiment centrale, en fait, pour libérer et renforcer toutes les potentialités inhérentes que les êtres humains possèdent. Donc, on est vraiment très convaincus, finalement, de toutes ces potentialités que chacun de nous possède, mais que sans éducation, des fois, ces potentialités restent cachées. Et ce qui est important, du coup, sur la base de cette vision, c'est que les populations que l'on sert à travers nos programmes ne sont pas perçues comme, des victimes impuissantes face à leur destin ou simplement des récepteurs passifs d'une aide extérieure. Au contraire, vraiment, nos efforts de développement cherchent à puiser dans ce vaste réservoir de capacités des populations locales et à leur donner les moyens de devenir réellement les protagonistes de leur propre développement.
Donc, en fait, les clés du changement, c'est en nous, notre volonté. Et avec un guide, on peut devenir une meilleure version de soi-même, et cela à tout âge. Donc, c'est un mindset, un message d'espoir. Mais ça veut dire quoi concrètement, permettre aux bénéficiaires d'être les protagonistes de leur propre développement?
Oui, c'est une question que je trouve très, très intéressante parce que, en fait, pour moi, c'est vraiment cette idée que le développement, c'est pas quelque chose, c'est pas un projet qui est mené par un groupe pour un autre, mais c'est vraiment un processus dans lequel chacun peut devenir un protagoniste et la communauté locale, en fait, met en place certains projets et au premier plan finalement de ces projets. Donc si je prends l'exemple des écoles communautaires, l'idée pour nous c'est pas d'aller dans un village et allez on y va, on construit une école. C'est d'abord finalement nos partenaires qui commencent par la sensibilisation de la communauté à l'importance de l'éducation, à l'importance de l'éducation en particulier des filles. Et c'est suite à cette conscience élevée de la communauté que le choix de mettre en place une école émerge de la communauté elle-même en fait. La décision vient de la communauté. Et donc, c'est quelque chose qui contribue beaucoup à la durabilité du projet parce qu'il y a une réelle appropriation par les habitants. Et ensuite, des membres choisis de la communauté suivent la formation d'enseignants et l'école est construite directement par la communauté avec des ressources localement disponibles. Et un comité de gestion de l'école est créé qui est composé d'enseignants, de parents, de membres de la communauté qui prennent en charge finalement le développement de l'école, par exemple en s'assurant que les parents puissent payer des cotisations pour permettre de rémunérer les enseignants. Donc, le fait que ni nous en tant que UNICEF Foundation, ni nos partenaires locaux ne rémunèrent les enseignants ou ne construisent l'école fait que vraiment c'est la communauté locale qui est pleinement en charge de l'école. Et nos partenaires, du coup, interviennent au niveau de la formation des enseignants, au niveau de l'accompagnement des comités de gestion, donc vraiment le renforcement des capacités. Mais on ne crée pas de dépendance parce que, du coup, si demain notre partenaire se retire ou une UNICEF Foundation se retire, l'école créée pourra continuer à exister. Donc ça, c'est vraiment un élément important au niveau des écoles communautaires. Pour prendre un autre exemple avec le programme de préparation pour l'action sociale, comment cette idée d'être protagoniste de son propre développement se manifeste, c'est cette idée que finalement, le programme, la manière dont il est conçu, c'est à travers un groupe d'études qui étudie une vingtaine de manuels avec l'aide d'un tuteur. Et ces manuels vont venir renforcer les capacités des participants dans les domaines du langage, des mathématiques, des sciences, des processus de la vie communautaire. Et alors que les participants avancent dans cette étude des manuels, le programme les prépare réellement à réaliser des projets de service, de recherche et de production dans leur communauté, et en fait à analyser réellement quelles sont les conditions dans lesquelles ils vivent, à identifier les besoins de leur communauté et à trouver des façons d'y répondre grâce aux connaissances qu'ils ont nouvellement acquises. Donc finalement, c'est vraiment sur la base de cette étude de ces matériels et de cette lecture de leur propre réalité que les étudiants vont lancer des initiatives de complexité variée et souvent de complexité croissante dans ces divers domaines que j'ai mentionnés précédemment, donc l'agriculture, la santé, l'environnement, des micro-entreprises, etc. Et du coup, le fait que les initiatives soient prises directement par les participants eux-mêmes dans des domaines qui sont pertinents en fait pour leur vie et pour celle de leur village, ça leur permet encore une fois d'être protagonistes du développement de leur communauté. C'est eux-mêmes qui vont tracer le chemin du développement de leur communauté et c'est pas justement quelque chose qui vient de l'extérieur et qui est imposé de l'extérieur.
D'accord, chacun redevient acteur de sa propre vie et cela grâce à l'apprentissage et à la connaissance et tout devient possible à partir de là. Quelles sont vos actions concrètes au Luxembourg? Quel est votre public cible au Luxembourg?
Au Luxembourg, notre public cible, c'est la jeunesse, les jeunes à partir de 11 ans en général, et puis le grand public. On s'intéresse à ces publics-là parce que, en particulier les jeunes, mais aussi les adultes ont leur rôle à jouer. C'est des périodes spéciales de leur vie où ils prennent conscience du monde qui les entoure et ils commencent aussi à forger leur identité. Comment ils ont envie d'agir? Comment ils ont envie de prendre des décisions? Qu'est-ce qui régit leur décisions et leurs choix? Et du coup, pour avoir des jeunes qui vont être des protagonistes du progrès social, qui vont agir en tant qu'acteurs de changement positif, il faut quand même, quels que soient les pays, quelles que soient les cultures, un certain nombre quand même de compréhension, de valeurs, d'attitudes qui permettent de contribuer concrètement aux objectifs du développement durable. Donc pour cela, on mène des ateliers qui ont toujours trois piliers qui sont au cœur de nos ateliers. Du coup, c'est l'art, la réflexion, l'échange, et puis l'action, le fait de quand on fait émerger des idées dans un groupe, certaines compréhensions, on doit les mettre en pratique pour qu'elles soient appropriées et qu'on voit qu'elles aient un vrai impact dans nos vies, aussi petites, aussi simples qu'elles soient. Et puis l'art, c'est ce deuxième outil pédagogique qui permet de s'approprier des idées de façon plus abstraite, de façon plus subtile. Il y a un texte qui est très une petite citation qu'on partage souvent à nos jeunes, mais aussi aux professeurs, aux éducateurs qu'on forme. C'est que l'art peut mieux éveiller de si nobles sentiments que la froideur de la rationalisation. Donc voilà, l'art a une place particulière, on pourra en parler plus tard. Une autre chose qui régit nos activités à la base, parce que voilà, UF, on aime bien pas simplement réfléchir en termes d'action pratique, mais aussi de tous ces principes qui viennent renforcer notre structure et nos racines. C'est des concepts directement liés à ce que Luna présentait. Il y a déjà le fait que le développement ne se limite pas à sa dimension matérielle. Donc, il a des dimensions sociales, des dimensions éthiques, des dimensions environnementales qui doivent progresser avec cohérence. Et en fait, quand on commence à considérer ces dimensions, il n'y a plus de pays développés, de pays non développés ou en développement. Tous les pays ont besoin de se développer. Tous les pays ont des contextes et des besoins différents, certes. Donc, nos projets à l'international vont agir dans des contextes et à des échelles aussi variées avec l'expérience qu'ils ont accumulée. Et nous, au Luxembourg, on fait la même chose avec les besoins des jeunes aujourd'hui au Luxembourg. Et avec cette conscience, voilà, que on a besoin de se développer. Nous aussi, on a des problématiques diverses et variées auxquelles on doit faire face. Et puis, quand un pays, toutes les problématiques que les pays font face sont connectées les unes aux autres. Et un pays ne peut pas se développer ou être prospère indépendamment d'un autre. Donc, la prospérité, elle doit être une réalité pour tous. Et elle ne peut finalement s'accomplir que quand tous les pays progressent ensemble. Donc ça, c'est vraiment une certitude qu'on a et qui nous a aussi motivés à mener nos projets au Luxembourg après tant d'apprentissages générés par nos partenaires. Et l'autre point qui motive beaucoup aussi nos actions et que Luna aussi décrivait, c'est cette responsabilité des individus. Donc, pas simplement le fait qu'on sait que chacun a un potentiel et qu'il a sa place, il a son rôle à jouer, mais aussi que c'est une responsabilité. Donc comment on partage ce sens de mission à la jeunesse, mais aussi aux adultes, et comment on leur donne un sens de mission, on leur partage cette responsabilité qu'on a de façon empowering, mais pas que ça devienne pas un fardeau ou un sentiment de poids, mais que ça devienne un moyen d'expression et d'épanouissement personnel et collectif, quoi. Donc voilà comment nos actions Luxembourg se structurent un peu et la forme qu'elles prennent.
Pouvez-vous nous en dire plus sur les ateliers d'éducation au développement que vous menez, le court-métrage que vous utilisez dans ce cadre?
Oui, alors, tous nos projets ont commencé vers 2014, peut-être un peu avant, il y avait cette réflexion émergente des membres de Unity Foundation qui était de réfléchir à justement qu'est-ce que nous, on pouvait faire au Luxembourg, comment on pouvait aussi apporter notre pierre à l'édifice d'un monde meilleur en participant au renforcement des capacités de la jeunesse et aussi, au fur et à mesure, on a mis en place des activités avec le grand public. Donc, en termes d'intervention, on a divers ateliers qui ont pour but d'amener les jeunes à réfléchir sur des thématiques sociales et aussi individuelles et de réfléchir aux forces sociales qui les entourent. Et après, à réfléchir sur quelles sont certaines des capacités, certaines des valeurs qu'ils doivent avoir en tête et puis après mettre en pratique pour être du côté de la société et pas de sa destruction. Ou de sa dégradation, quoi. Donc, en 2014, on avait une amie réalisatrice de films d'un membre de notre CA était particulièrement aussi intéressée à ces sujets d'éducation, d'égalité de l'homme et de la femme, etc. Et réalisait justement en 2015 un court-métrage au Malawi, dans une des régions où on est aussi actif. C'est l'histoire de Blessing et Mercy, un frère et une sœur qui sont dans une zone très rurale du Malawi et qui vont à l'école grâce au financement de leur oncle. Et par un mauvais sort, l'oncle décède et l'oncle qui le remplace ne peut financer l'éducation qu'un seul des enfants. Alors à ce moment-là vient la question, mais en fait cette évidence à ce moment dans ce pays de qui est-ce qui va continuer l'école, et c'est le frère, c'est le fils. Et la fille automatiquement doit rester à la maison et être mariée à un homme beaucoup plus vieux alors qu'elle n'a que 12 ans. Et du coup, là, ce frère qui a vraiment un esprit assez fort et qui a cette sensibilité à la justice, à l'éducation de sa sœur et à son futur, on le voit réfléchir et être très tourmenté par ce sort. Et puis, il décide de sacrifier sa propre éducation pour laisser sa sœur prendre la place. Donc, j'espère que ceux qui nous écoutent pourront le voir un jour et que, même si j'ai un peu spoilé la fin, il y a aussi beaucoup de thèmes et d'histoires parallèles dans ce film qui a d'ailleurs très peu de paroles, une très belle musique et qui pourtant partage énormément de thèmes. Donc ce film, il partage, comme je disais, un peu des thèmes sur la notion de choix, la notion de justice, la notion de privilège et de sacrifice, et d'autres thèmes aussi, l'éducation de l'homme et de la femme, la capacité d'expression, les préjugés, qui sont des thématiques très, très pertinentes pour le Malawi, mais pas seulement, aussi au Luxembourg. Donc ça s'applique dans des contextes différents. Et ce que vit ce garçon dans ce film, qui est d'ailleurs de faits réels, est très marquant. Et on est aussi parfois confronté à des personnes au Luxembourg qui ont eu des passés, des histoires similaires. Mais même des jeunes qui n'ont pas, qui ont grandi peut-être dans des contextes matériels plus confortables, ont aussi ces questions-là qui leur viennent dans leur vie. Est-ce que j'ai toujours le choix? Comment je peux promouvoir la justice dans des contextes parfois scolaires d'harcèlement, de racisme, d'inégalité? Est-ce que j'ai une capacité de prendre conscience des préjugés que je peux avoir envers les autres et de comment je peux les abolir? Et puis aussi, tous les privilèges que nous avons, qui ne sont pas simplement matériels, mais qui sont aussi sociaux, qui sont aussi culturels, et comment ces jeunes-là peuvent, par des actions plus ou moins simples, plus ou moins grandes, faire des petits sacrifices pour mettre leurs privilèges au profit du bien-être social. Donc on a, voilà, c'est un film qui est juste 30 minutes, mais qui a peine énormément de thématiques et qui nous permet d'aborder beaucoup de sujets très profonds et en fait au cœur des réflexions des jeunes aujourd'hui. Ça, c'est nos activités, surtout envers la jeunesse.
D'accord. Et les courts-métrages que vous diffusez au Luxembourg, c'est un moyen également d'amener le débat de manière pacifiste et collaborative. Et c'est dans ce sens que tu dis, vous dites que l'art est à votre service.
Voilà, c'est ça. Et c'était même l'objectif de cette réalisatrice à la base qui ne voulait pas simplement créer un court-métrage, mais qui voulait aussi, qui avait dès le départ un objectif d'éducation pédagogique. Et le film a vraiment servi dans énormément de pays, je pense plus de 100 pays à travers le monde, dans des contextes différents, des écoles, des villages et même des acteurs publics et privés. Et puis le film a aussi lui-même reçu 12 prix internationaux, donc il a aussi vraiment une valeur artistique importante. Et les films inspirent, les films permettent de débloquer la parole. C'est des moyens d'expression, des moyens de communication et d'échange. Donc on utilise ce film-là, on en utilise aussi d'autres avec des collaborations avec d'autres structures. Et puis, on utilise aussi d'autres films qu'on montre dans des espaces, dans des événements grand public. Donc, je pense au cinéma du Sud, je pense au Festival des Migrations, je pense aux événements organisés par le CLAE ou en consortium d'ONG ou individuellement, on organise des projections de films suivies de débats et d'activités qui amènent le public à prendre conscience, à partager et à se connecter à d'autres réalités et à se sentir connecté aussi d'une façon ou d'une autre.
Donc clairement, le film, il est au cœur de l'expansion de votre ONG. Est-ce que je peux vous demander ce que deviennent toutes ces personnes qui ont visionné ces films? Est-ce qu'il y a un suivi mesurable, des retours sur investissement?
Oui, alors comme tu disais très bien, le film est au cœur de l'expansion parce que on a commencé tout petit avec quelques heures par semaine, sinon par mois, à utiliser ce film dans les écoles. Et en fait, l'intérêt qui était donné nous a amené à même créer une formation pour les professeurs et les éducateurs. Et on a même des structures qui utilisent le film de façon très régulière avec leurs participants. Donc ça nous a permis de faire ce suivi essentiel. Donc quand on a des interventions ponctuelles qu'on fait par nous-mêmes, on va avoir des évaluations quantitatives, qualitatives. On voit comment le public réagit. Sinon, on a des retours de nos multiplicateurs qui aussi nous partagent leurs expériences avec leurs participants, comment ces personnes s'approprient des thématiques, réagissent, donnent des idées de projets pour y répondre, etc. Et puis pour les événements grand public, c'est plus la confiance qu'on plante des graines et qu'elles émergeront à moyen ou long terme. Donc, parfois, on a aussi des personnes qui viennent nous voir, qui ont envie d'être bénévoles, qui ont envie d'être des ambassadeurs de nos messages, d'être des multiplicateurs de nos projets. Et du coup, qu'on forme pour qu'ils puissent reproduire nos ateliers dans leur propre contexte. Donc voilà, c'est pas simplement nous qui évaluons ce qui se passe, mais aussi on s'évalue nous-mêmes continuellement parce que du coup on apprend de ces multiples expériences et on affine nos méthodes et notre vision chaque année.
Et ces ateliers sont gratuits, tout le monde peut s'y inscrire?
Oui, on a la chance d'être financé par le ministère des Affaires étrangères à 75% et d'avoir aussi des dons de diverses agences publiques et privées. Et puis on est à but non lucratif, donc c'est l'objectif de pouvoir offrir des services qui soient gratuits. Voilà, ceux qui sont intéressés à nous connaître, à nous faire intervenir ou à collaborer, reçoivent notre soutien inconditionnel et gratuitement.
Justement, est-ce qu'on peut faire un point sur comment fonctionne financièrement une ONG? Quelles sont les sources de financement?
Oui, du coup, comme a mentionné Anne, finalement, on fonctionne sur la base des dons à la fois publics et privés. Donc, du côté public, au Luxembourg, on a la chance d'avoir le ministère des Affaires étrangères et européennes luxembourgeois qui nous cofinance à la fois au Luxembourg avec la campagne d'éducation au développement à 75% et aussi dans nos projets à l'international selon le pays à 80% ou à 60%. Et du coup, le reste des fonds est levé par Unity Foundation au Luxembourg auprès de communes aussi et après du côté privé auprès de donateurs individuels, de fondations, d'entreprises, de personnes qui vont voilà, mener des initiatives privées de collecte de fonds, etc.
Comment et qui monte un dossier pour demander des subventions ?
C'est quelque chose qui se fait du coup dans notre équipe selon finalement le donateur. Donc si c'est finalement le ministère des Affaires étrangères européennes, pour les projets à l'international, ça va être ma collègue et moi-même qui travaillons sur ce volet-là, de faire les demandes de subventions. Donc à l'heure actuelle, on est dans un accord cadre de 5 ans avec le ministère jusqu'à 2026, qu'on a signé l'année dernière pour ce financement pendant 5 années. L'éducation au développement, le projet d'éducation au développement, ça se renouvelle tous les ans pour le moment au Luxembourg. Donc, tous les ans, on soumet un dossier. Après, pour les demandes de subventions auprès d'entreprises, de fondations, etc., des fois, il y a des formulaires spécifiques à remplir. Il y a des demandes particulières qui sont faites. Donc, des fois, c'est un peu comme des candidatures spontanées. On envoie directement une demande, mais il y a des choses particulières, des conditions à remplir et que du coup, au sein de notre équipe, différentes personnes y prennent part. La personne chargée de la levée de fonds, Anne et moi également, de différentes manières.
De quel pays proviennent les subventions ?
Alors, selon l'approche du cofinancement du ministère du Luxembourg, pour chaque projet cofinancé, il y a une part financée par le gouvernement et l'autre part doit être levée au Luxembourg, donc auprès d'entreprises, de communes, d'individus luxembourgeois. Voilà, la plus grande part des fonds que l'on lève sont luxembourgeois, mais on peut aussi recevoir des fonds de l'étranger, mais la seule différence, c'est que ces fonds ne pourront pas être cofinancés par le ministère.
D'accord. Et il y a des déductions fiscales possibles sur les dons faits par des particuliers ou même par les entreprises ?
Oui, tout à fait. Du fait que UNICEF Foundation est une organisation agréée par le ministère des Affaires étrangères, on peut recevoir des dons fiscalement déductibles selon la loi sur l'impôt sur le revenu. Donc, à partir d'un montant annuel de contribution égal ou supérieur à 120 euros, les dons deviennent fiscalement déductibles.
Et vous rendez des comptes à qui ? C'est
vous ? Oui, tout à fait. C'est sûr que chaque personne qui contribue veut s'assurer que son argent est bien utilisé et qu'il va là où elle, en tout cas, qu'il contribue finalement à la mission que l'on promeut. Donc, du côté du ministère, tous les ans, on envoie nos rapports à la fois narratifs, des activités sur le terrain, des statistiques, nos rapports financiers. On est également audité tous les ans, ainsi que nos partenaires locaux, un audit financier qui garantit la transparence et la bonne utilisation de nos fonds. Et voilà, vraiment, on s'assure que d'avoir cette relation de confiance avec le ministère qui nous soutient depuis de longues années. Et auprès de nos donateurs privés, on a aussi cet élément-là du fait qu'on publie chaque année notre rapport annuel dans lequel on partage les développements sur le terrain, l'utilisation des ressources financières qui permet vraiment une transparence et à toutes les personnes qui nous soutiennent généreusement de savoir aussi comment est-ce que leurs dons ont impacté les populations que l'on sert.
Comment vous évaluez votre impact ?
Alors, Anne mentionnait au Luxembourg, on a ces différentes approches pour l'évaluation et les retours des personnes qui participent à nos activités. À l'international, c'est aussi essentiellement par les retours que nous font nos partenaires sur le terrain, les rapports qu'on reçoit chaque année, etc., la relation qu'on établit avec eux. On a à la fois des données, disons, qualitatives de tout ce qui se passe et qu'on peut lire dans le rapport, et aussi des données statistiques du fait qu'au début de notre accord cadre, on a fixé des objectifs de nombre d'enfants scolarisés, de nombre de parcelles agricoles cultivées, de nombre de communautés touchées, etc. Et du coup, chaque année, on est en mesure de voir où est-ce qu'on en est dans la progression par rapport à ces objectifs. Donc voilà, à la fois sur un plan quantitatif et aussi sur le plan de concrètement toutes ces histoires et tous ces développements qui illustrent aussi la manière dont les communautés et les individus qui prennent part au programme de nos partenaires sont transformés. Donc c'est vrai qu'on aime bien aussi participer dans des newsletters régulièrement des histoires aussi de nos partenaires qui, même si parfois sont assez anecdotiques, sont aussi représentatives et illustrent finalement des phénomènes plus larges de comment est-ce que, grâce aux écoles communautaires, aux programmes de préparation pour l'action sociale, etc., les gens qui prennent part vraiment deviennent, comme on disait tout à l'heure, les protagonistes de leur propre développement, du développement de leur communauté.
D'accord, vous parlez newsletter, mais est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux pour trouver des personnes intéressées par vos actions ou vos collaborateurs, des collaborateurs ?
Absolument. Au départ, on est surtout sur des réseaux de connaissances et de direct. Donc, on rentre, on va à la rencontre d'associations pour collaborer, d'ONG. et au contact direct des professeurs, etc., dans les écoles, qui font aussi parfois eux-mêmes appel à nous. Donc, pour ça, on n'a pas forcément besoin des réseaux sociaux en soi. Mais les réseaux sociaux, on les utilise pour partager nos expériences, pour partager nos histoires, pour finalement atteindre un public encore plus grand de personnes qui ne vont peut-être pas nous rencontrer en présentiel, mais qui vont lire ce qu'on fait et qui vont être inspirées, on l'espère, par ces expériences, par ces principes et ces réflexions qui sont au cœur du développement. Donc, c'est plutôt dans cette vision-là qu'on partage et qu'on est actif. Et puis, on essaye aussi de tout public, donc de communiquer différemment. Hein. On sait bien toutes ces plateformes qui ont des stratégies de communication différentes. Facebook, Instagram, LinkedIn, et puis notre site web, tout simplement. Et c'est très intéressant de voir aussi comment différents publics, en fait, interagissent à travers ces plateformes. Il y a des jeunes, il y a des professeurs, il y a des associations, il y a aussi, comme on en parlait tout à l'heure, des donateurs qui suivent un peu ce qu'on fait et comment leur donation, comment leur générosité a un impact réel dans nos programmes.
Donc, à travers les réseaux sociaux, vous touchez en fait le cœur et l'émotion des différentes personnes, collaborateurs, donateurs.
Oui, c'est très intéressant de justement cette question des émotions, parce que on a beaucoup de réflexions sur la façon dont on souhaite communiquer, la façon dont on souhaite partager nos idées et d'être très attentif à ne pas communiquer les mauvaises émotions. Donc, Luna travaille beaucoup sur la communication et on a de nombreuses discussions. Peut-être que tu voudrais donner plus de détails là-dessus, Luna.
Non, c'est vrai, c'est une question que je trouve assez intéressante de se dire comment est-ce qu'on communique en tant qu'ONG, parce que finalement, chaque message qu'on transmet va transmettre effectivement des sentiments, des émotions, des messages. Et selon le type de message ou d'émotion qu'on suscite, on va atteindre des objectifs différents. Et c'est vrai que avec vraiment cette idée que les protagonistes du développement, ce sont les communautés locales, pour nous, c'est vraiment important que nos communications transmettent de la joie, de l'espoir, de l'admiration aussi finalement pour les personnes qui mènent les projets, et pas une certaine pitié finalement, ou cette idée que les gens qu'on soutient c'est des pauvres victimes impuissantes et que nous en tant que donateurs on est un héros, on va venir les sauver, etc. C'est vraiment important pour nous que à la fois le donateur sente bien sûr que son don fait une différence et que on le remercie de sa contribution et que voilà, chaque contribution, aussi modeste qu'elle soit, va vraiment avoir un impact, mais en même temps qu'on fait ça, on essaie de s'assurer qu'on donne pas l'impression que le donateur est l'acteur principal finalement qui vient sauver des personnes dans le besoin, parce que ça irait vraiment encore une fois à l'encontre de cette idée que vraiment les acteurs principaux sont les populations locales. Et du coup, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant de comment est-ce qu'on crée cet équilibre où on est là pour vraiment inspirer, motiver et donner la volonté aux gens de contribuer, et de sentir qu'en faisant ça, ils sont vraiment en train de soutenir des populations à elles-mêmes se prendre en charge et pas à les sauver ou malheureusement voilà, diffuser des messages qui peuvent donner un certain sentiment de pitié ou de culpabilité qui sont pas forcément en accord en tout cas avec nos valeurs chez Unity Foundation.
Et comment vous soutenir ou collaborer avec vous?
Alors, c'est une très bonne question qui nous plaît de répondre. Donc, évidemment, comme on parlait des donations, il y a ce soutien qui peut être financier. Donc, soit avec des donations ponctuelles ou régulières, ou à travers l'organisation de cagnottes d'anniversaire. On en a quelques fonds chaque année sur Facebook, ou parfois même en présentiel avec leur famille, avec leurs amis ou même leurs enfants. Et puis, d'autres moyens de donner, c'est à travers les entreprises. Il y a le payroll giving qui est l'arrondi sur les salaires. Il y a aussi des engagements dans des événements comme l'ING Marathon. On est en train de créer notre équipe. Donc, tous ceux qui veulent courir peuvent rejoindre Unity Foundation. Et puis, aussi évidemment, on sait que les legs et dons d'entourage de personnes proches décédées peuvent aussi être rendu éternel à travers une donation qui va aller au-delà de cette personne-là et qui va soutenir des projets. Donc ça, c'est en termes de soutien financier. Et puis après, on a aussi le soutien en termes de ressources, soit pour des besoins internes pratico-pratiques, nous aider sur des stands, des événements, apporter des expertises en termes de peut-être de communication ou d'administration, de structure, etc. Et puis, ce qui nous intéresse, nous particulièrement, c'est le fait que ce ne soit pas uniquement Unity Foundation qui soit chargé de partager ces messages, ces expériences au reste de la population, mais que ce soit un nombre grandissant de personnes qui viennent peut-être de contextes, de domaines professionnels variés et qui ont envie d'être peut-être ambassadeurs de nos messages et peut-être même des multiplicateurs de nos projets et de nos ateliers. Donc, en ce moment, on a un petit groupe de jeunes qui sont dans diverses écoles et qui sont en train d'être formés pour pouvoir utiliser leur matériel dans leurs écoles, dans leur contexte privé de vie, etc. Et c'est très intéressant pour nous parce que, du coup, on apprend avec d'autres et on profite des expériences et du point de vue extérieur d'autres personnes, quoi. Donc ça, c'est une autre façon de nous rejoindre. Il y a mille et une façons de participer, de partager des messages et c'est ça qui nous plaît le plus, en dehors du besoin aussi financier qu'on donnait tout à l'heure.
D'accord. Le live touche à sa fin. Est-ce que vous auriez un conseil à donner ou une ressource aux personnes qui veulent devenir des meilleures versions d'elles-mêmes?
Je pense pour être motivé, pour agir, il faut d'abord connaître. Et je pense que chaque individu a ce désir inhérent à l'existence humaine qui est la recherche de la connaissance. Parce que connaître, en fait, c'est créer de la beauté. On est content, ça crée une joie très, très particulière de se connecter à des choses nouvelles. Et puis aussi, le fait de connaître nous rend conscient et la conscience rend active. Donc, ce n'est pas toujours le cas. C'est pour ça qu'il faut aller au-delà aussi de la simple connaissance. Et que quand on a une certaine motivation, ce qui renforce notre pouvoir d'action, c'est d'être entouré de personnes qui partagent aussi un optimisme réaliste. Donc, il ne s'agit pas de mettre de l'enthousiasme à tout type de projet et de s'épuiser dans des engagements individuels, mais de se connecter à des organisations déjà structurées, déjà efficientes, qui ont déjà une certaine expérience, et qu'ensemble, bah, on participe, on se sent entouré, on se sent soutenu. Donc voilà, ce serait un des conseils, d'agir individuellement et collectivement. Et bah, on vous attend pour ces divers événements. On essaye de créer ces rencontres, le Festival du cinéma du Sud, le Festival des migrations et divers autres événements comme... la plateforme BNE, le CLAE, etc.
Tu as déjà des dates à Lyon?
Alors, le Festival des migrations, j'ai eu une nouvelle il n'y a pas très longtemps. Il va être en mai. Je ne voudrais pas me tromper, mais on pourra reconfirmer ça dans les liens de ce podcast. Et le Festival du cinéma du Sud, c'est toujours un peu avant ou un peu après l'été. Donc, à confirmer aussi, mais on a bien un site web Festival du cinéma du Sud et une page Facebook où vous pouvez suivre les informations.
Mmh. Donc, on mettra les liens sous le podcast parce que c'est important justement de débattre ensemble. Ça permet de mieux se connaître. Et c'est l'occasion justement à travers ce festival, le devenir et de découvrir de nouvelles personnes et de se découvrir mieux soi-même et de devenir comme ça une meilleure version de soi-même. Donc voilà,
tout je ne sais fait. Pas
si vous voulez rajouter quelque chose, Luna, Anne.
Non, en tout cas de mon côté, merci beaucoup Émilie pour cette invitation. C'est vrai que sur cette question de devenir une meilleure version de soi-même, juste pour conclure une pensée, c'est vrai que parfois on pourrait se dire que pour devenir une meilleure version de soi-même, il faut se focaliser sur soi. Mais en fait, même si c'est peut-être contre-intuitif, c'est en étant au service des autres finalement qu'on grandit soi-même aussi et qu'on s'épanouit. Et je pense que c'est un des messages aussi forts de nos efforts d'éducation au développement au Luxembourg et aussi que nos partenaires mènent partout dans le monde, c'est que finalement, on peut pas devenir une meilleure version de soi-même en étant isolée, mais c'est en étant au service des autres, en collaborant avec d'autres que finalement on grandit tous. Donc je pense que ça serait ça peut-être mon message de fin pour ce podcast et merci beaucoup pour ton accueil.
Merci.